Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
Esclavage, la révolution abolitionniste.
Il n'y a ni droit ni justice dans l'esclavage. Quel droit avez-vous donc d'avoir vos nègres ? Fondamentalement, j'entends.
Quel droit, vous dites ? J'ai payé. Ils sont à moi.
Les lois, ça change. Les vérités universelles, elles, sont constantes.
Et nous sommes habitués à additionner la somme des révoltes des esclaves qui n'ont jamais accepté leurs conditions et les combats des abolitionnistes phares que nous voyons un peu comme les premiers citoyens du monde. Leurs efforts convergents ont mis au jour cette vérité constante et universelle, l'humanité est une. Certes, mais en histoire, il faut aussi compter en millénaires. Depuis le néolithique jusqu'à un premier moment d'ébranlement dans le monde radical protestant après 1680, l'esclavage est paru détestable parfois, mais aménageable seulement au cas par cas. Sa disparition relevait de tout, sauf de l'évidence. La comparaison avec le mouvement contre la peine de mort ou avec celui qui lutte contre la prostitution, le plus vieux métier du monde, comme on dit, apporte pourtant beaucoup d'enseignements. Dans les trois cas, l'histoire n'est pas linéaire. Il n'y a pas que des moments d'accélération, mais aussi des moments de ralentissement. Les objectifs peuvent être différents selon les époques. La France de 1794 donne la priorité à l'abolition de l'esclavage, et c'est aussitôt le retour en arrière. La Grande-Bretagne choisit, elle, l'abolition de la traite, et par la voie graduelle parvient au but plus vite que la France. L'intention de l'abolitionnisme est radicale, mais les armes généralement les plus efficaces sont réformistes, avec deux exceptions considérables. Saint-Domingue, l'unique révolte d'esclaves qui ait abouti seule, et les États-Unis, où il a fallu passer par une guerre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Olivier Grenouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous achevez un cycle de trois grands livres qui ont fait époque et fait débat, tous publiés dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. On se souvient des traites négrières, de Qu'est-ce que l'esclavage ? Et voici maintenant la révolution abolitionniste. Alors, il y a un grand chapitre d'introduction sur avant, mais on va maintenant passer tout de suite, nous, à pendant. Et je vous propose qu'on divise les choses en trois époques. La première époque va nous amener à la fin du XVIIIe siècle. Si on regarde les choses géographiquement, on va surtout parler, nous, de trois grands pays, les futurs États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. C'est à une époque où l'esclavage fonctionne fort bien économiquement que la pensée abolitionniste naît, ce qui est une difficulté.
Oui, tout à fait. Donc on va parler de trois pays. Il faut savoir néanmoins que cette grande idée nouvelle dans l'histoire de l'humanité, hein, abolir l'esclavage et abolir la traite, cette grande idée finalement concerne d'abord toute l'Amérique. Hein. C'est dans les années 1780 que quelques États américains comme le Connecticut abolissent la traite et l'esclavage. Et le dernier aux Amériques à le faire, c'est le Brésil en 1888. Voilà. Mais comme vous le dites, lorsque quelques hommes, ici ou là, des deux côtés de l'Atlantique et de la Manche, émettent ce projet d'abolir la traite et l'esclavage, c'est le moment où la traite et l'esclavage connaissent leur apogée. Et donc, ils ont un système extrêmement bien établi, générant beaucoup de profits à combattre.
Il y a deux sources, historiquement, même si on remonte très loin en amont, une source d'origine religieuse, une source d'origine plus philosophique. Et dans cette période de la fin du XVIIIe siècle, dans les colonies anglaises et en Grande-Bretagne, c'est peut-être la source religieuse qui est la plus dynamique, pas une source protestante du réformisme le plus classique, plutôt une source protestante radicale.
Oui, alors vous avez raison de rappeler que dès le départ, dès l'Antiquité, finalement, il y a deux sources à l'origine de ce qui devient l'abolitionnisme. Une source religieuse, une source finalement profane. Dès l'Antiquité, avec les stoïciens pour la philosophie, et puis les thérapeutes ou les esséniens pour la dimension religieuse. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a à nouveau ces deux sources-là, avec une dimension, donc, sont plus des côtés, évidemment, Angleterre et États-Unis, plus des protestants, des quakers, des églises non établies, hein, des méthodistes également. Et du côté français, on a également cette dimension religieuse, hein, l'abbé Grégoire, par exemple, mais disons que la dimension philosophique est peut-être plus importante en France à la fin du XVIIIe siècle.
On peut soulever notre chapeau pour saluer les quakers. Donc vous dites qu'ils formaient une sorte d'international de 90 000 personnes au milieu du XVIIIe siècle, parlant la même langue, partageant les mêmes espérances des deux côtés.
Oui, tout à fait. Il faut bien avoir à l'esprit que la Grande-Bretagne, qui va jouer après, on le verra, un rôle très important dans l'internationalisation, l'abolitionnisme au XIXe siècle, au départ, ce sont des Quakers américains qui importent l'idée d'abolir la traite esclavage en Angleterre.
Dans ce sens-là. Et alors vous disiez, la source profane, la source philosophique, elle est davantage importante en France, encore que dans le mouvement des Lumières, il faille distinguer. D'Alembert, l'esclavage, ça ne le scandalise pas, par exemple.
Oui, les Lumières, comme le nom l'indique, sont plurielles et elles sont évolutives. Et donc, comme Jean Érard l'a montré depuis longtemps, c'est vers 1750 que l'on passe finalement d'une période où on s'accommode de l'esclavage, une période finalement où on commence à douter hein, de l'esclavage, et 20 ans après, vers 1770, où on passe finalement de la gêne et du doute à la contestation de l'esclavage.
En France, la priorité, on est toujours à la fin du XVIIIe siècle, ça serait l'abolition de l'esclavage, à un moment où la traite, répétons-le, fonctionne très bien. Et à Nantes, chez les négriers, on ne se fait pas le souci de cet objectif trop lointain, l'abolition de l'esclavage qui n'est portée que par quelques individus assez peu nombreux, la Société des Amis des Noirs, par exemple.
Oui, alors il y a quelques fils de négociants qui, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, critiquent la traite, mais il est vrai que finalement, ce sont des voix très isolées. La Société des Amis des Noirs, fondée à Paris en 1188, elle regroupe environ 150 personnes, et je dirais que, grosso modo, suivant les réunions, ils sont entre 11 et 14 à être présents. Donc, c'est encore une fois, ce sont quelques personnes qui, au départ, initient ce mouvement. C'est une internationale d'humanistes hein, qui initie ce mouvement au départ.
Alors, dans l'abolitionnisme, il faut faire leur place aux esclaves, dont vous dites qu'ils ont multiplié, ou les actes de clandestinité, le marronnage, ou les révoltes. C'est dans les colonies françaises, c'est à Saint-Domingue qu'il y a, c'est exceptionnel, une révolte d'esclaves qui suffit à elle seule, sans éléments complémentaires déterminants, à faire basculer le système.
Oui, c'est pratiquement le seul exemple dans l'histoire de l'humanité. L'esclavage n'est jamais allé de soi, puisque finalement on a toujours inventé des arguments pour le légitimer, donc un malaise dès le départ. Dès le départ, tous les esclaves résistent et tentent d'échapper à l'esclavage. Mais pendant la plus grande période de son histoire, l'humanité, les esclaves tentent de s'échapper individuellement, finalement, du système. Personne n'imagine qu'on peut mettre un terme à l'esclavage et à la traite. Et à Saint-Domingue, première fois dans l'histoire de l'humanité, donc révolte qui commence en août 1691, ça commence comme une révolte banale et ça se termine par une révolution. Et les esclaves se libèrent tout seuls. La Convention, finalement, entérine le fait, la situation de fait, et accepte la libération des esclaves.
Nous sommes en février 1794. Trois envoyés de Saint-Domingue, dont un noir, ont été reçus, finalement, comme députés à la Convention. Et chacun connaît cette scène de liesse qui s'est produite en février, décrite ici, dans un documentaire de Jean-Louis Sagot du Voreau.
Aujourd'hui, nous proclamons face à l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret. Nous proclamons la liberté universelle.
Dans les tribunes du public, la mulâtresse Marie Dupré perd connaissance en entendant la nouvelle.
Lançons la liberté dans les colonies, et c'est aujourd'hui que l'anglais est mort.
La Croix argumente en faveur de l'abolition sans délai.
Je demande que les hommes soient libres sans distinction de couleur.
Accordé! attendez que les représentants du peuple français se précipitent à la tribune pour embrasser les trois députés des colonies, le décret libérateur est proclamé.
Formidable réussite, dites-vous, Olivier Grenouillot. Formidable, au sens premier du mot, c'est qui fait peur. Parce que ça va provoquer ou déboucher sur un retour en arrière rapide.
Qui fait peur parce qu'il s'agit de faire peur à l'Angleterre, comme le dit Danton dans votre extrait sonore, puisqu'on pense que finalement, si la France abolit l'esclavage, les colonies anglaises vont être perturbées par des mouvements, par des révoltes, et donc c'est finalement s'attaquer aussi à l'ennemi. En même temps, l'abolition de 94, ce sont les idéaux finalement aussi de l'an 2, et puis c'est aussi essayer de récupérer sur place les esclaves qui sont déjà libres, essayer de se les associer pour lutter contre l'Angleterre. Donc il y a à la fois des raisons fort pragmatiques et des raisons idéologiques qui se conjuguent en 94. Et c'est, je dirais, le seul cas dans le monde occidental où on commence par abolir l'esclavage. Partout ailleurs, on abolit d'abord la traite, puis, des années après, l'esclavage.
Ça va être le cas en Angleterre. C'est l'Angleterre qui va donner le branle à la deuxième époque.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En compagnie toujours d'Olivier Grenouillot qui publie chez Gallimard la révolution abolitionniste. Les Anglais choisissent la voie de l'abolition de la traite d'abord. Et puis ils ont une telle puissance qu'ils imaginent, et ils ont raison, que ce qu'ils décident va être imité, nonchalance, par les autres pays.
Oui, alors le cas britannique est tout à fait original pour deux raisons. La première, c'est que c'est le seul pays, enfin, à cette échelle-là, parce qu'on trouve ça aussi au Brésil, aux États-Unis, mais c'est presque le seul pays où, à cette échelle-là, il y a finalement un mouvement populaire en faveur de l'abolition. En 1838, il y a 500 000 Britanniques qui signent une pétition pour l'abolition immédiate de l'esclavage. Donc, premier élément, un mouvement très populaire. Le deuxième, c'est que les Anglais ne font pas simplement qu'abolir la traite à leurs ressortissants en 1807. À partir de 1807, ils veulent la faire interdire à toutes les autres nations occidentales.
Et ils exercent un droit de visite sur les bateaux des puissances autres?
Alors, pour arriver à ses fins, la Grande-Bretagne multiplie finalement les tactiques. La première, donc, au Congrès de Vienne en 1814, on tente finalement d'arriver à une entente internationale, ça ne marche pas. Et ensuite, l'Angleterre finalement choisit la voie des accords bilatéraux. Elle signe un accord avec la France, le Portugal, etc., pour faire interdire finalement la traite aux principales nations européennes.
Oui, mais enfin, les Français, au nom de la lutte permanente contre l'Angleterre, et puis aussi parce que beaucoup de marins français ont été prisonniers dans des conditions épouvantables sur les pontons britanniques pendant les guerres de l'Empire, cherchent à contourner le plus possible ces mesures de visite, cette exemplarité britannique. Nous sommes ici dans un film tourné par un Américain exilé en France qui s'appelait John Berry. Nous sommes sur un navire négrier.
Tu as nettoyé les cales ?
Pas encore.
Qu'est-ce que tu attends ?
Allez !
Ce n'est pas du bétail qu'on embarque.
Rien en vue!
Trois pipes par jour, plus que 120 pipes et nous serons arrivés. À moins que nous nous rencontrions un patrouilleur.
Vous n'avez jamais été visité?
Si je l'avais été, je ne serais pas là. Balancé au bout de ce mât. Tout est paré. Aucun navire ne pourra nous attraper. Il n'y a plus qu'à se laisser porter jusqu'à La Havane.
Moi? Plus rien ne m'étonne. Figurez-vous que dans ma jeunesse, j'ai été un fougueux révolutionnaire. J'ai illuminé, comme tous les gens du quartier, le jour où la Convention abolit l'esclavage. Et aujourd'hui, je suis médecin à bord d'un négrier. Vous ne trouvez pas que c'est drôle?
Je comprends pourquoi Surcouf a été un peu négrier. C'est par hostilité à l'Angleterre. Je cite le nom de Surcouf parce que vous dites que le roman maritime, tel qu'il commence à se constituer à partir des années 1830-1840 en France, il est nourri comme ça de cette vindicte contre les Anglais et accepte donc très bien l'idée de la traite.
Le premier, finalement, roman maritime, c'est Le Négrier de Corbière en 1832. Et le héros, entre guillemets, de ce roman, c'est un négrier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, il y a un renversement. Entre la fin du XVIIIe siècle, où il y a un courant d'anglophilie, un rapprochement entre la France et l'Angleterre, on pense œuvrer ensemble pour abolir la traite et l'esclavage. Et puis, le XIXe siècle. Entre-temps, il y a eu les guerres, la révolution de l'Empire. Il y a la restauration, finalement, qui est mise en place du fait de la défaite de Waterloo, donc un régime qui naît dans l'humiliation, la défaite. Et donc, finalement, les défenseurs de l'esclavage ont beau jeu de dénoncer, finalement, l'abolitionnisme comme un complot britannique pour affaiblir à nouveau la France.
Mais pendant la monarchie de Juillet, deuxième époque de la monarchie constitutionnelle, après 1830, les libéraux ont peu ou prou le vent en poupe. Il y a des groupes qui font renaître des sociétés sur l'abolition de l'esclavage. Vous parlez par exemple du groupe issu de la famille de Madame de Staël. Le fils de Madame de Staël s'en est allé tranquillement acheter des fers à Nantes chez les négriers qui les lui ont vendus sans malice, et il est allé les montrer partout.
Oui, c'était en 1825. La traite est déjà illégale en France en 1817. Auguste Staël veut montrer ainsi que finalement, malgré la loi, le trafic continue. Et c'est un scandale à l'Assemblée, évidemment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, nous sommes dans la France des notables, et pour diverses raisons, il n'y a pas de droit de pétition en France qu'en Angleterre, la peur finalement des dérapages révolutionnaires, les milieux abolitionnistes restent très élitistes en France.
Oui, mais enfin, ça polarise quand même peu à peu, parce que des exemples sont donnés, des horreurs de l'esclavage, il n'y a pas seulement les fers de Nantes qu'on promène. Tenez, je vous propose ici d'entendre, issu d'un film de Paul Viecali, le récit, exact ou non, du témoignage d'un cocher de fiacre qui auparavant avait été esclave dans les îles et qui est convoqué devant une des commissions qui travaille aux innombrables rédactions de lois, de décrets et d'ordonnances qui ont eu lieu sur le sujet pendant la monarchie de Juillet.
Monsieur Alcindor, racontez-nous la journée ordinaire d'un esclave. Y a-t-il des journées extraordinaires?
Oui. Pendant les récoltes, on nous met une muselière pour nous empêcher de sucer la canne. Et cela permet aussi d'étouffer nos cris pendant que le fouet nous déchire. Le commandeur estime toujours que nous simulons, alors, malade ou pas, on est taillé.
Que veut dire taillé?
L'image est éloquente. Monsieur Alcindor, acceptez-vous de nous montrer votre dos?
Non, mais... Monsieur le ministre, tout le monde sait qu'on fouette les esclaves. La loi a même réglementé le châtiment à 29 coups.
Le législateur a oublié de préciser combien de fois par jour. Monsieur Alcindor, veuillez vous retourner, s'il vous plaît.
Alors, les dos taillés qu'on montre, les fers qu'on expose, ça fait image. Ce sont des messages qui popularisent au-delà du petit cercle des notables en France, et puis plus encore dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, et aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Les abolitionnistes doivent lutter contre un fort courant esclavagiste. Et donc, ils utilisent divers moyens pour, je dirais, renforcer leur parole. Le premier moyen, c'est d'indiquer que c'est la preuve par les chiffres. Le deuxième moyen, c'est faire parler les esclaves eux-mêmes. Et puis, c'est aussi, comme on le voit là, édifier et montrer les horreurs de la traite et l'esclavage pour pousser les citoyens à agir et à militer contre l'abolition. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage aussi, c'est que dans les années 1830-1840, la France, le gouvernement s'obstine à ne pas abolir l'esclavage, mais dans différents procès, des esclaves font appel à la justice pour demander finalement, lorsque par exemple théoriquement un esclave devait être affranchi à la mort de son maître et les héritiers n'acceptent pas ce fait, la justice finalement a tranché et souvent elle tranche en faveur de l'esclave, notamment la Cour de cassation. Et donc la parole de l'esclave commence dans ces années 1840 à être écoutée par quelques juristes.
Puisque vous parlez des procès, on va citer celui qui a eu lieu, toujours à la même époque, on est là en 1839-1841, aux États-Unis. Vous pouvez nous raconter l'histoire de la Amistad, qui est un navire espagnol. On n'a pas vu passer jusqu'ici les Ibériques. Ce n'est pas chez eux que l'esclavage s'est le plus vite aboli. Donc c'est un bateau dont la cargaison d'esclaves venait de Sierra Leone et qui, à la faveur d'une tempête au large de Cuba, a vu une cinquantaine d'esclaves qui se libéraient.
Oui, voilà. Et ensuite, il touche les côtes américaines. Et donc, tout un procès, les esclaves.
Attends, on les met en prison. Alors, attendez, on a oublié. On a oublié de dire une chose, Olivier Grenouillot, c'est qu'ils avaient tué les 50 esclaves révoltés, une partie de l'équipage.
L'équipage, hein, c'est une révolte. Et donc, les esclaves arrivés aux États-Unis, où l'esclavage est encore, nous sommes avant la guerre de sécession, l'esclavage encore existe, même se développe, ils sont d'abord mis en prison. Et ensuite, ça devient une affaire très rapidement célèbre, des articles dans la presse nationale, un procès...
Avant même le procès, il y a eu un spectacle, vous dites.
Un spectacle, oui, oui, tout à fait. Et lors du procès, il y a un ancien président des États-Unis, Adams, hein, qui fait un discours de 13 heures en faveur de la libération des esclaves.
Le temps donc, où les présidents américains étaient d'excellents juristes.
Un énorme retentissement, et donc en 1941, les esclaves sont libérés et sont transportés au Sierra Leone.
À la suite donc de longues discussions, ici deux avocats avec des stratégies différentes pour les esclaves de l'Amistad. C'est là un extrait du film de Spielberg.
Eh bien, l'affaire est plus simple que vous ne croyez, monsieur Tappan. Je veux dire, c'est comme tout, n'est-ce pas? Terrain, bétail, héritage, qu'avez-vous donc?
Du bétail.
Oui, réfléchissez. La seule possibilité d'acheter ou de vendre des esclaves, c'est qu'ils soient venus au monde, esclaves, par exemple, sur une plantation.
Le sont-ils?
Oui. Sont-ils venus au monde esclaves sur une plantation?
Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, mais nous pensons que non.
Ce ne sont pas des esclaves. S'ils ne le sont pas, ils ont été acquis illégalement, n'est-ce pas? Ignorez tout sauf la véritable origine de l'affaire. Le transfert injustifié de biens volés. De toute façon, nous gagnons.
Monsieur, ce serait contre tout ce pourquoi je me bats de laisser cela dégénérer en exercice de style dans les méandres de la minutie juridique. Ce sont des êtres humains, monsieur Baldwin. Pas du bétail. Le Christ a-t-il engagé un avocat pour plaider le vice de forme? Non, il est monté en croix noblement. Vous savez pourquoi? Pour délivrer un message. Pour délivrer un message comme nous devons le faire.
Mais le Christ a perdu.
Vous, je crois... Non, monsieur, il n'a pas perdu.
Vous, monsieur Johnson, vous voulez gagner, n'est-ce pas?
Mais oui.
Et moi aussi, bien sûr. C'est que parfois, moi, je ne suis pas payé si je ne gagne pas. Ce qui, en fait, nous ramène à la première question. Le prix.
Alors, pour gagner, il y a plusieurs voies possibles. Il y a les méandres de la minutie juridique. Il y a le gradualisme sur lequel vous insistez. Il y a la ligne directe, avec le message, la cible. Et on va en ligne droite. Vous insistez sur la notion de radical réformisme. L'objectif est révolutionnaire. Les voies peuvent être diverses.
Oui, l'abolitionnisme est une révolution. Encore une fois, jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait pensé que l'on pouvait abolir la traite esclavage. Et le fait d'avoir ça comme projet, c'est une révolution. Maintenant, dès le départ, les abolitionnistes sont réformistes. Et je dirais que finalement, c'est ce qu'on promit, hein, qu'on peut accepter ou non, mais qui a permis à l'abolitionnisme de l'emporter. Hein. À part Saint-Domingue, à part les États-Unis, dans tous les autres cas de figure, finalement, l'abolition est un phénomène lent. On commence à abolir la traite, puis l'esclavage. Et lorsqu'on abolit, comme en France, en 1848, immédiatement l'esclavage, il y a eu déjà auparavant plusieurs lois qui ont fait que on avait favorisé les affranchissements, etc. Et donc, l'immédiatisme, c'est toujours la fin d'un mouvement amorcé depuis parfois des décennies, voire un siècle. Il faut un siècle, en fait, pour abolir la traite et l'esclavage.
Oui, mais la traite peut renaître et se développer dans des régions dont on avait ignoré le rôle important. Troisième période, nous voilà dans les années 1880, enfin quand se reconstituent des empires coloniaux, mais pas les mêmes, des empires coloniaux centrés sur l'Afrique, le fleuve Congo. Ici, c'est une chanson venue d'un affluent du Congo.
Oh lélé, oh lélé, mon liba makasi. Cara, oh, yeah, oh. oya,
Onginza ah,
oya oya,
Engela ah,
oya oya,
Yakara ah,
oya oya,
Onginza ah,
oya oya. Olele, olele, Moliba makasi. Olele, olele, Moliba makasi.
Olele, olele, Moliba makasi.
Jean-Marie Bolangassa, nous sommes entre Ouélé, Oubangui, Congo. Ben c'est justement dans ces régions de l'Afrique centrale et puis aussi en Afrique de l'Est que la traite interne apparaît à ceux qui veulent se tailler des espaces coloniaux dans ces zones à la fin du 19e siècle. Et alors c'est curieux là, les abolitionnistes ou l'idée abolitionniste va être appelée à la rescousse. Un peu pour justifier la colonisation. La colonisation va permettre d'abolir la traite, disent ceux qui la mènent.
Oui, alors c'est compliqué. En fait, les abolitionnistes doivent d'abord répondre au discours de leurs adversaires. Or, que disent les esclavagistes ? Que si la traite et l'esclavage sont abolis, c'est la ruine, finalement, des États européens. Donc, dans un premier temps, les abolitionnistes disent, voilà, on peut faire œuvre utile, défendre des idéaux, mettre fin à la traite et l'esclavage, sans pour autant ruiner les nations, puisqu'on pourrait remplacer la traite par un commerce qu'ils appellent légitime. Des marchandises produites en Europe et aux États-Unis, aux Amériques, contre des produits fabriqués en Afrique, par le travail libre des Africains restés chez eux. Ensuite, dans les années 1840, eh bien, lorsque la traite par l'Atlantique commence à décliner, les abolitionnistes s'aperçoivent que, paradoxalement, la traite esclavage en Afrique intérieure ne disparaît pas. Ils pensaient que la fin de la traite atlantique signifierait immédiatement la fin de la traite esclavage en Afrique. Ce n'est pas le cas. C'est même l'époque où, finalement, ces phénomènes se renforcent en Afrique. À ce moment-là, certains abolitionnistes se disent qu'il faut peut-être intervenir sur le sol africain. Mais ils ne pensent pas encore mis sous tutelle de vastes régions. Hein. Et c'est le cardinal Lavigerie, en 1888, qui lance une vaste croisade.
Fondateur des Pères Blancs, archevêque d'Alger.
Voilà, le bras droit du pape. Et qui lance une vaste croisade et qui, finalement, utilise un discours qui nous rappelle celui du droit d'ingérence pour raison humanitaire d'aujourd'hui. Il nous dit, voilà, en exagérant tout à fait les choses, alors le savait-il ou pas, mais l'historien sait que les chiffres qu'il utilise sont faux, mais il nous dit que chaque année, 2 millions de personnes sont retirées en esclavage en Afrique et que si on ne fait rien, l'Afrique entière sera dépeuplée.
Vous dites que le cardinal Lavigerie a eu un rôle important. Il permet le retour du pape dans ces questions. Le Figaro de ce matin rend hommage à Olivier Grenouillot à votre livre sur la révolution abolitionniste chez Gallimard en disant que le christianisme et le catholicisme y ont eu une part très très importante. Enfin,
ce qui n'est pas tout à fait ce que je dis d'ailleurs.
Le pape n'a condamné qu'en 1839 et il y a eu bien sûr l'abbé Grégoire, mais il n'est pas porté en sainteté, en l'odeur de sainteté par l'Église catholique, et il y a eu les missionnaires, mais le pape tard.
Oui, alors, c'est ce qui explique la différence aussi avec les protestants, c'est que il y a la centralité pontificale chez les catholiques, et donc, finalement, c'est en tant qu'individu que des voix, déjà dès le 16e et 17e siècle, font entendre contre la traite atlantique, mais des individus. Hein. L'institution ne prend, comme vous le dites, officiellement parti contre la traite qu'en 1839.
Et à ceux qui vont dire « mais Olivier Grenouillot ne parle pas de la question de l'esclavage dans le monde musulman », je renvoie au premier chapitre de votre ville, de votre livre, et à cette réflexion, c'est difficile pour les musulmans d'abolir ce qui est dans les textes sacrés.
Oui, c'est ce que écrit notamment Roger Bott, et ce qui a été longtemps un problème d'ailleurs chez les chrétiens aussi, puisque dans l'Ancien Testament, l'esclavage existe, et dans le Nouveau Testament, finalement, on insiste sur le message d'humanité et de justice. Et en fait, jusqu'au XVe siècle au moins, le débat se développe de la même manière dans le monde chrétien, dans le monde musulman, c'est ce que j'appelle la casuistique. On considère que l'esclavage n'est pas un phénomène naturel, mais on tente de s'en accommoder en trouvant des cas qui permettent de justifier tel ou tel esclavage.
Donc on est revenu aux permanences anciennes en cette fin d'émission. L'abolition, c'est un mouvement récent. Merci à vous, Olivier Grenouillot.